Alors on va commencer ce matin donc par l'intervention d'Alexandre Pierrepont. Donc Alexandre est anthropologue, il partage son temps entre la France et l'Amérique du Nord pour y enseigner et y mener des recherches, notamment donc sur les conditions et les dynamiques de l'invention culturelle et sur les alternités internes aux sociétés occidentales. Alors Alexandre est plus spécifiquement spécialiste du monde du jazz, de ce qu'il appelle le chant jazzistique. Il a notamment co-dirigé avec Philippe Carle l'ouvrage Polyphrie, qui est ici, que vous pouvez trouver également au magasin Musicien Estaminet. Je le rends tout de suite parce qu'il va en avoir besoin. Livre d'ailleurs au sein duquel les occurrences à la compagnie Huba et à Bernard sont tout à fait fréquentes. Alexandre a publié également en 2015 un ouvrage chez Parenthèse qui est une somme sur le collectif de musiciens chicagoans, l'AACM, la nuit. Le voici également, et je lui rends tout de suite aussi parce qu'il va en avoir besoin. Voilà, et ce travail sur l'AACM, qui est d'ailleurs, je crois, le travail de ta thèse en fait, donnera, et donc le thème de son intervention ce matin, qu'il a intitulé l'AACM, enfin qu'il a intitulé. J'ai réduit ce titre à ce que je vous ai dit, parce que le titre d'Alexandre était très, très long. Donc le titre sur le programme, c'est l'AACM, une anthropologie de la singularité et de l'être en commun. Et je te laisse la parole.
Merci. Je vais commencer par présenter ce que vous avez entendu il y a quelques instants. Il s'agit d'une jeune membre de l'AACM, puisque c'est un collectif, une organisation qui a été créée en 1965. Donc il y a plusieurs générations de musiciens au sein de l'AACM, de 20 à 90 ans désormais, à peu près 200 musiciens. C'est la plus ancienne et la plus large des organisations de musiciens de cette sorte, à travers le monde, et dans ce que j'appelle donc le champ jazzistique. Matana Roberts, qui vit aujourd'hui, originaire de Chicago, qui vit aujourd'hui à New York, s'est lancée, et c'est un peu à l'image de tout ce que je pourrais vous raconter ce matin, s'est lancé il y a quelques années dans un très vaste projet qui est soutenu par le Smithsonian Institute, qui est censé avoir 12 volets. Pour chacun de ces volets, elle a imaginé des orchestres différents. Là, on vient d'écouter un extrait du tout premier volet, avec un big band. Ça ne s'entendait pas tout de suite, puisque c'est d'abord comme chanteuse. Elle est saxophoniste et clarinettiste, par ailleurs, et principalement. Mais c'était elle qui chantait, accompagnée de certains des membres de l'orchestre, au bout d'un moment. C'est un big band. Le deuxième, il n'y a que trois volets pour l'instant qui ont été réalisés, sur scène et sur disque. L'idée, c'est aussi à chaque fois de le documenter. Le premier volet, c'était donc un big band. Le second volet, c'est un quintet avec un chanteur dans la tradition plutôt lyrique et des negro spirituals. Et le troisième volet qui est sorti l'an dernier, elle est toute seule au saxophone et à l'électronique. Il y a un certain nombre de volets qui vont arriver ensuite. Le quatrième, si je ne me trompe pas, c'est avec un quatuor à cordes. Ça donne tout de suite une idée de l'étendue, pas seulement instrumentale, mais des projets des membres de l'AACM. Il faut rajouter quelque chose. Le projet s'appelle Marie-Thérèse Coin-Coin. En anglais, Marie-Thérèse Coin-Coin. En vérité, Coin-Coin est la déformation les propriétaires d'une esclave du 19e siècle, probablement d'origine Ewe, entre le Bénin et le Togo, et qui a obtenu, avant même l'abolition de l'esclavage, avant la guerre civile américaine, qui a obtenu sa libération, la sienne d'abord, et celle d'une partie de ses enfants, qu'elle avait eu évidemment avec le dit propriétaire, et elle a réussi même à s'installer, c'est un cas assez unique, elle a réussi même à s'installer, à acheter quelques lopins de terre, et installer ses enfants et un certain nombre d'esclaves affranchis de la région, en échange évidemment de ne pas faire de prosélytisme sur l'émancipation. La raison pour laquelle Matana Roberts, au début du XXIe siècle, s'est lancée dans ce projet-là, c'est que Marie-Thérèse Coin-Coin est son ancêtre, par alliance. Et donc, en fait, ces 12 volets sont une manière de repartir de la nuit des temps. Donc, le début du XIXe siècle, certainement, peut-être l'Afrique, une Afrique fantôme, ça, pour le coup, et d'aller jusqu'à nos jours pour évoquer non seulement la trajectoire d'une famille ou d'une lignée africaine-américaine. Je continue à dire afro-américaine, moi, pour ma part, je pourrais expliquer pourquoi, mais le politiquement correct désormais, c'est africain-américain, bien sûr. Voilà, donc, et chacun de ces volets, non seulement une instrumentation et un orchestre différent, un répertoire différent, utilisant différentes, non seulement méthodes instrumentales, mais de composition et d'improvisation, pour évoquer cette longue histoire, cette chronologie. Alors, et je voulais aussi commencer par elle, d'abord parce que c'est une femme, ensuite parce que c'est une jeune, ce qu'on peut très facilement en parlant de l'ASM, et je sais qu'une partie d'entre vous ici connaissent cette organisation déjà. C'est d'évoquer évidemment les premiers membres, surtout hommes, et devenus célèbres. Mais il y a donc plusieurs générations au sein de l'ASM depuis 1965. Alors, d'abord, je dois remercier Fabien, Julie et toute l'école. Ce n'est pas simplement des courtoisies d'usage. C'est parce que grâce à eux et bûchant sur ce que allait être ma présentation, j'ai écrit, à l'image du long titre dont tu parlais, un document de 70 pages que je vais vous lire. Non. Mais j'ai vraiment commencé avec dans l'idée d'essayer de ne pas me répéter, puisque j'ai eu l'occasion maintes fois, et je le rends encore et je m'en réjouis à chaque fois, de parler pas simplement de ma thèse, pas simplement de mon livre, mais des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à cette organisation. Et puis, j'ai la chance d'intervenir quasiment à la fin, donc de vous avoir écouté les uns les autres, lors des différentes prestations, mais également dans les interactions qu'on a eues au jour le jour, la nuit, dirait Amandine. Ces derniers jours, et puis je me suis dit, je vais peut-être pas faire comme ça, parce que ça va être très scolastique. Et donc j'ai commencé, et puis en plus on est à UZEST, donc ça, mon intervention, au lieu d'être très organisée, scientifique et rigoureuse, va être totalement bordélique, insatisfaisante et frustrante. En hommage à Bernard Luban. Alors je vais commencer par là aussi. Alors je veux dire quelle était mon intention et je vais essayer d'y arriver pour vous rassurer quand même un peu, pour vous montrer que quelque part il y a un peu de raison instrumentale quand même dans cette histoire. Je me suis dit que pour que ça soit à peu près clair, j'allais vous détailler les choses en trois temps. Je ne vais pas y aller tout de suite, mais je vais l'annoncer. Voilà, trois temps, on aime bien, trois temps c'est réglementaire. Un aurait été et sera peut-être de vous lire la charte par laquelle l'ASM a été enregistrée en 1965. Et qui est le seul texte collectif qu'ils aient jamais écrit ou voulu écrire, c'est important, qu'ils suivent, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne le suivent pas vraiment, et c'est important, encore aujourd'hui, il y a simplement eu quelques petites modifications en 1982, de vous parler, de vous donner une recension de leurs pratiques, puisqu'on a beaucoup parlé de pratiques ici, à travers le temps, et enfin de lister un certain nombre de problèmes auxquels ils ont été confrontés au fil du temps aussi, durant ces 52 années d'existence. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, mais donc du coup, finalement, et au préalable, je vais essayer d'aborder les choses d'une autre manière aussi. Alors d'abord, je vais commencer par Saint-Ouen, qui est assez loin de Chicago, qui est la ville où je suis né, et Saint-Ouen en 2003, je ne suis pas né en 2003. J'accompagnais à cette époque-là, alors vous savez peut-être, ceux qui vivent en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, créé au départ comme presque une excroissance de la politique culturelle du Parti communiste dans ces villes-là, s'est créé un festival qui existe lui aussi toujours, Banlieue Bleue. C'est important de le préciser toujours parce que j'ai vu au fil du temps les gens oublier pourquoi ça s'appelait Banlieue Bleue. Hein, c'était Banlieue Bleue parce que, évidemment, le bleu est la couleur associée à cette musique qu'on appelle le jazz. Et en même temps sur un territoire qui était alors connu, encore dans les années 80, comme les banlieues rouges. Tout le monde à l'époque comprenait le jeu de mots. Aujourd'hui, plus personne ou quasiment. Donc c'est quand même important de le rappeler. J'ai travaillé à l'époque avec ce festival-là, mais en 2003, je suivais une tournée européenne de l'Art Ensemble de Chicago. L'Art Ensemble de Chicago est l'un des groupes phares, celui-ci de la première génération de la ACM, créé très peu de temps par plusieurs musiciens de Chicago, très peu de temps après 1965, et qui s'est rendu célèbre en France et en Europe à partir de 1969, puisqu'ils s'y sont installés pendant plusieurs années. Ils ont poursuivi leur carrière, ils sont retournés aux États-Unis ensuite, je ne vais pas faire toute leur histoire ici maintenant, mais en 2003, c'était un événement un peu particulier, puisque Joseph Jarman, l'un des deux saxophonistes du groupe, faisait son retour dans l'orchestre, et dans le cadre de mon ethnographie, j'ai à la fois suivi les activités de ces musiciens-là chez eux, aux États-Unis, à Chicago ou à New York, mais également lorsqu'ils étaient en tournée ailleurs, à l'étranger et pas seulement en France. Et donc là, ça tombait sur ma ville natale, Saint-Ouen. Et Bernard Lubat s'en souviendrait certainement parce que la soirée était partagée par l'Art Ensemble of Chicago et le trio constitué de François Corneloup, Bruno Chevillon et Bernard. Et ce dont il ne se souvient peut-être pas, c'est lorsque j'ai pénétré dans sa loge, accompagnant Roscoe Mitchell, l'autre saxophoniste du groupe, qui de la manière la plus polie qui soit, enfin ça je ne sais pas ce qu'il faudrait que je te dise, a demandé si le trio qui partageait la soirée avec l'Art Ensemble au Chicago pouvait aussi partager certaines substances dont on sentait les effluves dans le couloir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en lisant, le livre d'entretien, de dialogue, le livre dialogique de Bernard avec Fabien, je suis tombé sur ce passage-là l'autre jour. Alors, c'est Bernard Lubat qui parle. À l'instar, tu m'excuseras de te citer en ta présence. À l'instar de ce que... En plus, ça va être un peu moins animé et dynamique. Hein. À l'instar de ce que je perçois des revendications des musiciens de l'Art Ensemble, dit-il, ma musique est une musique monde qui est effectivement teintée de politique, car elle est le pendant artistique de luttes sociales qui ne sont pas seulement la justification d'une esthétique, mais son fondement. Je suis engagé, mais surtout incarné, impliqué, c'est-à-dire avant tout discutable, notamment parce que je n'adhère pas totalement à un idiome en particulier. La remise de soi à une avant-garde esthétique ou à un collectif politique, ce n'est pas mon truc, je préfère être à dada, des majuscules évidemment, bizarrement à cheval, in and out. Alors, donc on voit bien que la congruence n'est pas simplement Saint-Ouen en 2003. Il y a plusieurs thèmes que je vais reprendre dans les 51 minutes qu'il me reste, et qui sont très importants dans cette citation, et qui sont effectivement corrélés par ce qu'on peut trouver des activités de l'Art Ensemble Chicago et de la